Donc la dernière fois, pour ceux qui n'étaient pas là, voilà, je vais reprendre juste un peu l'essentiel. La dernière fois, on a parlé de l'enfance du Père Joseph. Ce qu'il faut retenir de l'enfance du Père Joseph, qui est né dans une famille qui avait de grandes difficultés, qui n'était pas issue de la misère, cette famille, mais qui, en raison des circonstances de la guerre de 14-18, est tombé dans la misère. Donc ce n'étaient pas des gens bien riches, des gens du monde populaire, mais qui est tombé dans la misère à cause de l'enfermement dans une prison dû au fait que M. Wresinski, le père, le papa de Joseph Wresinski, du père Joseph, avait un passeport allemand. Et évidemment, puisqu'il était polonais, il avait un passeport allemand parce qu'il se trouve que la région où il est né était à cette époque sous occupation allemande, et donc ayant un passeport allemand, évidemment, on le soupçonne. On le soupçonne d'être un espion, on le soupçonne d'être, vous voyez, une situation de guerre. Immédiatement, on prend les grands moyens et on enferme les gens. Donc on enferme Ladislas Wresinski, le papa Wresinski, sa femme, Lucrecia Celas Lopez, qui était espagnole, et donc on se trouve là avec une famille de migrants, d'émigrés, d'immigrés, qui se trouvent en France, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, se trouve en France, lui venait de Pologne, s'était retrouvé à Madrid, on ne sait pas pourquoi il a quitté la Pologne, et puis il s'est marié à Madrid avec Lucrecia, et les voilà partis sur Angers. On ne sait pas pourquoi ils sont partis, sinon peut-être la nécessité de trouver du travail, etc. Et alors ils se retrouvent à Angers, juste au moment où voilà que la guerre commence, 1914. Et les voilà emprisonnés, enfermés, d'abord dans une forteresse à Saumur, quelques mois, et finalement dans le grand séminaire d'Angers, qui était inoccupé à cette époque-là et qui est transformé en prison. Et les voilà là pendant 4 ans. 4 ans d'enfermement, d'humiliation, de difficultés d'accès aux soins, difficulté d'avoir de quoi se nourrir suffisamment. Bref, non seulement c'est la guerre, comme tous les autres citoyens français, la guerre est toujours un moment évidemment difficile, y compris pour se nourrir, pour se soigner, mais en plus, les voilà enfermés, donc manquant de liberté, et puis soupçonnés, moqués, voilà. Et pendant cet enfermement, une petite fille meurt, elle s'appelait Sophie, elle meurt de manque de soins et de manque de nourriture aussi sans doute, et naît aussi le petit Joseph. Donc Joseph naît en 17 dans cette prison d'Angers, et puis finalement la guerre finit, hein, comme toujours les guerres ça finit un jour, et ensuite les gens y sortent. La question elle n'est pas de savoir si la guerre finit, elle est de savoir dans quel état sont les gens. Et les Wresinski, quand ils sortent de cette prison, de cet enfermement, eh bien, ils ne savent pas trop quoi faire. Ils se retrouvent là, à Angers, où ils ne connaissent personne, où il n'y a pas de travail, où tout le monde essaie de reconstruire sa vie, de refaire surface, parce que tout le monde s'est écroulé pendant la guerre, hein. Il ne faut pas oublier que ce sont des millions d'hommes qui sont morts. Les femmes ont tenu les rênes comme elles pouvaient, à la place des hommes, dans les usines, dans les commerces. Et on se retrouve en 1918, eh bien, avec des centaines et des centaines d'hommes qui manquent dans la ville d'Angers, dans toutes les villes de France. Et donc avec éventuellement de l'embauche, mais vous savez ça, les choses ne changent pas, vous savez, en ce bas monde. C'était en 1918 comme c'est en 2015, eh bien, on prend d'abord ceux que l'on connaît, on prend les plus riches, les moins pauvres, et donc Ladislas se retrouve sur le carreau sans rien. Alors il se met à son compte, il essaie de créer une petite boutique d'horloger, non pas pour vendre des montres, mais pour réparer des montres. Il répare des montres et puis voilà qu'on lui confie une montre en or d'une certaine valeur. Lorsque celui qui lui a confié cette montre revient pour la chercher, Ladislas Vrezinski cherche en vain la montre. La montre a disparu, on l'accuse de vol. Tout de suite, les voisins s'emparent de l'affaire. On dit, ah ben voilà, cette famille d'étrangers, ce sont des voleurs finalement, bref, ils sont désignés, moqués, c'est la honte, l'humiliation. Et Ladislas, donc le papa Vrezinski, cherche du travail et il n'en trouve pas. Il n'en trouve tellement pas qu'il décide de partir, de quitter la maison pour essayer de trouver en France, dans d'autres villes, un peu de travail. Il n'en trouve pas davantage, alors il décide de partir en Pologne. En fait, on ne saura jamais vraiment ce qu'est devenu M. Vrezinski. Il a envoyé du courrier plusieurs fois, il a envoyé des cadeaux, quelques meubles, et puis au bout d'un moment, le courrier s'est estompé, il a demandé une fois à sa femme de le rejoindre, avec les enfants, Madame Vrezinski a refusé. Elle a refusé à la fois parce que quand on sait où on est, on sait où on est, mais face à l'inconnu, c'est pas facile de faire le pas. Il fallait réapprendre une langue, la langue polonaise. Madame Vrezinski maniait déjà mal le français. Elle pouvait imaginer qu'en Pologne, ce serait la même chose et même pire. Et puis aussi, sans doute, la peur de rejoindre son mari qui était extrêmement violent. Et il ne faut pas cacher cet aspect. Sans doute, Madame Vrezinski a-t-elle eu peur de rejoindre un homme qui, comme dit le père Joseph au début de son livre, frappait le fils aîné sans cesse à la tête. Voilà, donc un homme violent. Donc ce qu'il faut retenir de cette enfance violente, pauvre, misérable même, c'est deux choses, la honte et le courage. Donc la honte, le père Joseph dit au début de son livre « Les pauvres sont l'Église », c'est un texte que j'ai cité la dernière fois, « Nous étions les mis à part du quartier populaire ». Donc, ils n'habitaient pas un quartier de misère, hein, ils n'habitaient pas un bidonville, ils habitaient dans un logement insalubre, trop petit, mais dans un quartier populaire, et ils étaient mis à part de ce quartier, autrement dit, on n'avait pas trop de relations avec eux, mis à part du quartier, reliés à l'ensemble, donc reliés, ayant des relations, reliés à l'ensemble par l'aumône, mais pas par l'amitié. Cette phrase est très importante, c'est-à-dire que les relations de la famille Vrezinski, les relations des enfants Vrezinski, les relations de Joseph, du père Joseph, avec l'environnement, en tout cas ce dont il se souvient, c'est les braves gens autour de nous nous faisaient la charité, mais ne nous aimaient pas. Ils avaient des relations avec nous pour nous donner une pièce, une baguette de pain ou un morceau de viande ou un peu de pâte ou de riz, mais ils ne nous aimaient pas. Donc pas une relation d'amitié, une vraie relation, mais voilà, reliée à l'ensemble par l'aumône, non par l'amitié. Et puis le courage. Et le père Joseph, tout au long de sa vie, a toujours rendu hommage à sa mère pour le fait qu'elle se soit battue pour ses enfants. Et le père Joseph dit que sans sa mère, au fond, les enfants ne s'en seraient pas sortis. Car il faut noter que tous les enfants Vrezinski s'en sont sortis. Ils ne sont pas restés dans la misère. Ils ont tous eu un métier et possibilité d'avoir des enfants, de les élever. Ils n'étaient pas des gens bien riches, mais ce ne sont pas du tout des gens qui ont sombré dans la misère. Et ça, Père Joseph a toujours remarqué que c'était dû à leur mère qui tenait, disons, à la fierté. C'est-à-dire que, voilà, je suis Madame Wrzesinski. Et qui tenait à être respectée. Père Joseph cite des exemples où un jour elle avait envoyé le petit Joseph chez l'épicier pour avoir une bouteille d'huile. Joseph revient avec la bouteille d'huile pleine, sauf que il y a, vous savez, une bouteille, il y a un goulot, et il manquait de l'huile dans le goulot, et Madame Wrzesinski dit: tu vas chez l'épicière pour demander que j'ai payé un litre d'huile et il manque de l'huile, donc il me faut l'huile qui manque. Donc une espèce de fierté, c'est pas ces deux cuillerées d'huile qui ont permis à la famille Wrzesinski de survivre, mais ces deux cuillerées d'huile, elles sont importantes parce que, voilà, Madame Wrzesinski ne voulait pas qu'on lui marche sur les pieds, même si ce n'était évidemment pas une injure ou un vol de la part de l'épicière. Elle n'avait pas rempli complètement, mais voilà. Mais voilà, c'est un peu le signe combien cette femme ne supportait pas que on atteigne à sa dignité, à sa fierté de femme qui essaie d'élever ses enfants. Donc, courage de sa mère, courage aussi des enfants. Père Joseph raconte que très jeune, avec son frère Louis, ils allaient dans les prés, dans les champs, à côté de là où ils habitaient, pour s'occuper d'une petite chèvre et qui permettait de nourrir, en fait, le lait de chèvre permettait de nourrir la petite Antoinette, qui était la dernière fille. Et donc, dès l'âge de 5, 6, 7 ans. Et puis surtout, cette épopée, cette aventure, cette grande aventure, chaque matin, le Père Joseph partait de chez lui, qu'il fasse déjà jour ou bien qu'il fasse encore nuit, tôt le matin, pour aller servir la messe au bon pasteur, pas très loin de là où il habitait, mais quand même à une dizaine de minutes, et ça de l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 14 ans. Donc il faut imaginer l'enfant qui quitte chez lui et puis qui connaît le chemin, bien sûr, mais sans doute aussi a un peu peur, comme tous les gamins, comme nous-mêmes quand nous étions gamins. Quand il fait nuit, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et il raconte que la religieuse qui l'avait embauchée, qui lui avait dit: est-ce que tu servirais la messe tous les jours, tu auras un petit déjeuner et en plus 40 sous, et dit le Père Joseph: ce sont ces 40 sous qui m'ont décidé. Et le courage donc de l'enfant Joseph, qui dit que ce n'était pas agréable du tout, que c'était même désagréable d'aller tous les jours servir la messe. Bonjour, entrez. Et donc c'est-à-dire que c'est pas, il n'allait pas servir la messe, n'imaginons pas les choses qui ne sont pas, il n'allait pas servir la messe par piété. C'est pas parce que le Père Joseph était tout d'un coup un pieux avant l'âge, à l'âge de 5 ans ou de 6 ans ou de 10 ans, qu'il allait servir la messe. Sa première préoccupation en allant servir la messe n'était pas d'aller servir Jésus-Christ, d'adorer Jésus-Christ ou d'être un bon et pieux chrétien, mais de ramener un peu d'argent à la maison et surtout le pain à midi. Car il allait, en sortant de l'école, chercher un grand pain au bon pasteur pour ramener à la maison. Donc, il faut voir donc cet enfant qui contribue, et on le verra par la suite d'ailleurs, on parlerait dans un instant, quand il sera un petit peu plus vieux, enfin quand il aura 16-17 ans, cet enfant contribue peu, mais c'est une vraie contribution, à la vie matérielle de la famille, à la vie économique de la famille. Donc courage à la fois de sa mère, de lui-même, de ses frères et sœurs. Il faut dire aussi que ce qui arrive, pourquoi j'insiste tant sur l'enfance, c'est parce que, et c'est vrai pour nous autres, chacun, pour chaque homme, chaque femme, l'enfance est un épisode important de la vie. C'est souvent un épisode dont on ne se souvient pas bien, on ne sait pas ce qu'on faisait à 2 ans, on sait à peine ce qu'on faisait à 5, et pas beaucoup plus ce qu'on faisait à 6 ou 7. On ne se souvient pas de beaucoup de choses, mais en même temps, il y a des choses qui s'inscrivent très profondément, et qui ensuite reviennent, et qui expliquent aussi certains engagements ou certains chemins qu'on prend dans la vie. Qui explique aussi des catastrophes, qui explique soit des catastrophes, soit des choses belles de la vie. On est influencé par ce qui est arrivé, dont on ne peut rien, parce qu'on est trop petit, que pouvait Joseph à 4 ans, face au regard des voisins, qu'il est traité de kiki, Vrezinski, kiki, mais que l'enfant Joseph et Madame Vrezinski auraient fort bien pu en rigoler et dire « bon, c'est un petit diminutif ». Mais non, ils l'ont pris comme une insulte et comme quelque chose de très désagréable. C'est-à-dire que finalement aussi, plus on a de difficultés dans la vie, plus le moindre mot nous blesse. Et si on n'a pas de difficultés, etc., on se moque pas mal de tout ça. Kiki, ce n'est pas bien grave. Le père Joseph raconte que ce diminutif, cette manière de les appeler, était pour lui très pénible. Donc, cette influence de son enfance a été très forte parce que, plus tard, lorsqu'il est entré au camp de Noisy-le-Grand, j'y reviendrai les séances suivantes, hein, et puis à partir du moment aussi où il a fait partie de la JOC, j'en parle dans un instant, où il a rencontré des gens aussi pauvres que lui ou plus pauvres que lui, mais surtout au camp de Noisy-le-Grand, il a compris en voyant les gens qu'il rencontrait, il a compris la misère de sa famille. Au fond, on ne sait jamais où on vit. Un enfant, il ne sait pas où il vit. Il ne sait pas s'il vit dans un bidonville ou s'il vit au château de Versailles. Il vit où il est. Il est dans un petit espace et il voit l'environnement, il voit des gens à côté de lui, il voit des tas d'ordures. Mais ça pourrait être des tas d'or. Il se trouve que ce sont des tas d'ordures. Il n'a pas de comparaison possible, donc il ne sait pas encore où il est. Il est là où il est. C'est sa vie. Il n'y a pas d'autre vie, c'est la sienne. Et c'était la même chose pour l'enfant Joseph. Mais lorsque il côtoie des hommes, des femmes, des enfants, alors il dit quelque part dans un commentaire d'un film qui s'appelle La rue des fleurs, dans ce commentaire, qui est un vieux film de 1965 ou 64, mais est un commentaire beaucoup plus tardif, en 1984, donc dans ce commentaire, le père Joseph dit « Ces enfants que je voyais, c'était moi-même rue Saint-Jacques à Angers. » Et donc, en rencontrant ces enfants, le père Joseph dit « Mais au fond, j'étais comme ces gamins. J'étais comme ces gamins. » Et tout d'un coup, il comprend quelle était sa situation, de même que sa situation d'enfant pauvre et souffrant du mauvais regard des gens, de l'humiliation et des insultes, comme Kiki, eh bien, lui permet de comprendre le malheur de ses enfants ou de ses hommes. Il a un exemple particulier. Il dit, au fond, le père Joseph n'a jamais vraiment compris son père. Il avait une grande admiration pour sa mère et il a beaucoup eu de difficultés à comprendre son père, et notamment la violence de son père. Et il raconte que c'est dans le camp de Noisy-le-Grand, en rencontrant des hommes violents et en réfléchissant sur... Mais, pourquoi sont-ils si violents? Il a réalisé que s'ils étaient violents, c'est parce que c'était des hommes humiliés. Et alors le père Joseph dit, eh bien j'ai compris ce jour-là, enfin ces jours-là, en rencontrant ces hommes au camp de Noisy, j'ai compris que si mon père était violent, c'est parce que c'était un homme humilié. Et donc son enfance lui permet de comprendre les gens qu'il rencontre, et les gens qu'il rencontre lui permet de prendre la mesure de ce qu'il avait vécu dans son enfance. Et tout ça, évidemment, l'enfance du Père Joseph, nous n'avons pas un rapport de police où il n'y a pas de film ou des photographies qui nous diraient « Ah, il y avait tant d'assiettes dans la maison, il y avait tant de mètres carrés, il y a des choses que nous ne savons pas. » Ce sont des souvenirs qu'il a. Mais des souvenirs qui surgissent parce qu'il rencontre des hommes, des femmes, des enfants qui tout d'un coup lui font mémoire que mais finalement j'étais comme ça. Et comprenant qui il est, alors il peut comprendre les gens. Oui, il y a une sorte de cercle comme ça qui lui permet peu à peu de rentrer à l'intérieur de la souffrance des gens. Un texte qu'on travaillera plus tard dans les mois qui viennent, mais je le cite déjà, qu'il dit alors beaucoup, beaucoup plus tard, quand il est déjà au camp de Noisy, dans les années 1965-66, où il dit que connaître son frère, hein, voilà, son frère, sa sœur, connaître ceux qui nous entourent, c'est entrer dans le contenu du désespoir, ou bien du courage, ou bien de la foi, mais entrer dans le contenu, pas seulement expliquer, pas seulement « Ah, ce monsieur ou cette dame, elle souffre parce que il n'y a pas de travail, il y a du chômage, il n'y a plus de mari, il n'y a plus de femme, ou les enfants sont partis, ou... » Ça, on explique, mais aller plus loin que ça, c'est rentrer dedans, à l'intérieur de la souffrance, du désespoir, ou du courage et de la foi aussi. Ouais, mais rentrer dans le contenu du désespoir. Et je pense que le Père Joseph a réussi à rentrer dans le contenu du désespoir des gens, mais parce qu'il a réfléchi sur la vie de ceux qu'il rencontrait à partir de sa propre enfance, et que la rencontre des hommes et des femmes adultes, mais aussi des enfants, à Noisy-le-Grand notamment, lui ont permis de mieux comprendre ce qu'il avait vécu, au fond de faire la vérité sur ce qu'il avait vécu. Alors donc, voilà, ça c'est son enfance, on arrive donc à vers l'âge de 13 ans. Je vous disais la dernière fois que on le met à la porte de l'école quand il a 12-13 ans, avant le certificat d'études. Finalement, sa mère le présente au certificat d'études en candidat libre. Il est reçu au certificat d'études. Donc c'est formidable parce qu'il a un diplôme et il va pouvoir faire un apprentissage. Et il fait un apprentissage de pâtissier. Et il fait un apprentissage de pâtissier à Angers. Mais vous voyez, aujourd'hui, lorsqu'on fait un apprentissage, il y a un contrat, on ne fait pas n'importe quoi, on doit apprendre un métier. À l'époque, l'apprenti, c'est un peu celui qui fait tout ce que personne ne veut faire. Et surtout, on ne travaille pas de 8h à 6h du soir, ou bien de 5h du matin à 5h de l'après-midi, ou on ne travaille pas. Non, on travaille tout le temps. Ça veut dire que cet apprentissage, c'est pas quelqu'un qui est à l'école pour apprendre la pâtisserie, mais c'est pendant 2 ans à Angers, surtout un travail de livreur. Il livre à travers la ville les différentes pâtisseries qui sont commandées par les gens aisés de la ville, ou bien, lorsqu'il ne livre pas, il transporte les sacs de farine. Bref, un travail harassant. Et puis, de temps en temps, le patron pâtissier lui montre comment on fait la pâtisserie. Donc ce sont deux ans difficiles, extrêmement difficiles, et qui ne lui apprennent pas forcément le métier de pâtissier. Au bout de 2 ans, il part à Nantes, et c'est là qu'il apprendra le métier de pâtissier. Savoir qu'ensuite, le Père Joseph, à l'âge adulte, 40, 50, 60 ans, 70 ans, aimait faire des gâteaux montrer combien le métier de pâtissier était un métier d'art. Père Joseph insistait beaucoup sur un pâtissier, c'est un artiste. Et il montrait comment pétrir la pâte, et c'était vraiment presque comme un sculpteur. Mais ça, c'est à Nantes qu'il a appris ça, auprès d'un pâtissier qui respectait l'apprenti qu'il était et lui a appris le métier. Donc il se trouve à Nantes, à l'âge de 15 ans, et un jour, l'histoire raconte, Père Joseph raconte lui-même qu'il se trouvait le long de la Loire, regardant l'eau qui coule, et puis là, il rencontre un gars, son nom c'est Édouard Landas, peu importe, mais Édouard Landas, voilà, il raconte un Édouard. Vous savez, comme vous avez des jeunes, c'est « Tiens, qu'est-ce que tu fais là ?» Donc il bavarde 3 minutes, et puis au bout d'un moment, le Édouard dit à Joseph, donc à 15 ans, hein, il dit « Tiens, mais j'ai une réunion ce soir. »« Ah bon, c'est quoi comme réunion ?»« Ah ben, tu devrais venir, c'est une réunion avec d'autres jeunes. »« Ah bon, dit Joseph, mais qu'est-ce qu'on va y faire ?»« Ah ben, c'est une réunion, la jeunesse ouvrière chrétienne. » Alors Joseph dit, oh là, mais il y a un curé là. Édouard dit, bah oui, il y a un curé. Oh là là, non, je ne fais pas une réunion avec des curés. Il faut dire que auparavant, Joseph, dans son apprentissage à Nantes, il était très soucieux des autres jeunes qui avaient du mal, qui avaient de la difficulté dans la vie. Et notamment, il allait très souvent sur les quais de la Loire, dans la banlieue de Nantes, dans les zones où il y avait des jeunes très misérables, très pauvres, et il allait les voir, qu'est-ce qu'il faisait ? Rien, parce qu'il ne savait pas trop ce qu'il fallait faire, mais disons que c'est comme s'il était aimanté par des gens plus pauvres que lui, sans trop savoir ce qu'il allait faire. C'est là où la Jope va lui rendre service. Mais il y a dans son esprit et dans son cœur une fibre sociale. C'est, il faut faire quelque chose pour les gens plus malheureux que moi, si on voulait résumer. Et alors, eh bien, à l'époque... Alors justement, à l'époque, si vous avez le souci des pauvres et des gens exploités, maltraités, eh bien, il faut aller voir les communistes. Ce que fait Joseph, Joseph va voir les communistes. Et là, il fait partie, 6 mois, des jeunesses communistes. Et ce temps lui a appris beaucoup de choses. Lui a appris essentiellement, enfin, lui a donné une raison de vivre. Et parce que, vous voyez, un jeune, pas malheureux dans son enfance, parce qu'il était aimé de sa mère, qu'il aimait ses frères et sœurs, mais une vie très difficile, et donc, enfin voilà, la vie difficile d'enfant de la misère, et donc se retrouvant tout seul à Nantes, il est tout seul à Nantes, il habite une petite chambre, de bonne, comme on disait à l'époque, en haut d'un immeuble, il connaît personne, il faut savoir aussi que Joseph est renfrogné, replié sur lui-même, qu'il a sale caractère, c'est impossible d'avoir des relations avec ce gamin-là, c'est de Joseph que je parle, donc c'est pas le genre de gars qui se fait des copains, c'est plutôt le genre de gars qui se fait repoussoir, je veux dire, avec Joseph, on fréquente pas Joseph parce que au bout de 3 jours, on se bat avec lui, je veux dire, c'est pas du tout... si son père était violent, tel père, tel fils. Hein, et Joseph était violent. Il était violent quand il était jeune, il était violent aussi quand il était adulte. Mais là, quand il est jeune, du coup, sa violence et sa rébellion, et le fait qu'il est un peu un révolté, fait que on fréquente pas trop Joseph. Et là, il trouve une raison de vivre chez la jeunesse communiste. C'est-à-dire, il y a des choses à faire. On peut essayer de changer le monde. On n'est pas obligé d'être pressé comme ça. Ce n'est pas forcément les patrons qui ont toujours raison. Ce n'est pas les riches qui ont toujours raison. Nous autres, les pauvres, on a peut-être quelque chose à dire. Donc, une raison de vivre. Et puis, une espérance. C'est-à-dire, c'est le grand jour. C'est-à-dire, il y a un jour où, pour nous, les pauvres, les choses iront mieux. Voilà. C'est la grande espérance communiste. Bon, on sait que combien ça a été pas malheureusement que voilà, ça a été ensuite les emprisonnements en Union soviétique, etc., et que le communisme a été effrayant, mais pour un jeune comme ça, rencontrer tout d'un coup d'autres jeunes qui ont l'espérance, au fond, ça vaut le coup de vivre, parce qu'on peut changer, et puis un jour, on gagnera. Puis au bout de 6 mois, ça lui casse les pieds, finalement, il arrête, et c'est à ce moment-là qu'il rencontre cet Édouard Landrasse, qui lui dit, mais viens donc. Puis finalement, le jeune Joseph, il se laisse tenter, il vient à la Réunion. Et là, il se passe quelque chose. Il vient à la Réunion, mais en marchant en arrière, quoi. C'est le curé qui l'embête, le fait qu'il y ait un curé. C'est pas un gamin pour les curés. C'est, voilà, les curés, il a eu son compte, hein, de 4 ans à 14 ans, d'aller servir la messe, il a eu son compte. Ça a pas créé servir la messe, ça a pas créé un Joseph pieux. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. En dehors de l'Église, en dehors de Dieu, le Joseph. Et voilà que il va à cette réunion, et là il y a quelques jeunes, il y a en effet un curé, et il entre, il est le tout nouveau, personne ne le connaît, et là, le père Gerbeau, c'est son nom, l'aumônier, le curé, il lui dit, ah mais toi le nouveau, tu vas faire le compte-rendu. Ah oui, c'était pas du tout le style de Joseph, c'était pas un intellectuel, il avait réussi le certificat d'études, mais c'était pas un intellectuel, et faire le compte-rendu, mais il est honoré. Il est honoré parce qu'on lui a demandé, quelque chose, on lui a demandé de faire quelque chose. Et alors, puisqu'on lui a demandé, il va le faire, et il le fait. Et il raconte que cet événement, pour lui, a été capital. Que la première fois, lui qui était un inconnu dans ce groupe, on lui dit, tu vas faire le compte-rendu, faire un compte-rendu c'est quand même important. Il dit, mais finalement, personne ne me connaissait, et voilà qu'on me fait confiance. Donc ça a été comme une sorte pour lui de tournant. Et il faut retenir ça parce qu'ensuite, le père Joseph avait cette manière de faire, alors beaucoup plus tard, quand il avait créé le mouvement Athée des Carmontes, mais cette manière de faire, de rencontrer quelqu'un et puis de lui dire tout de suite, tiens, mais toi tu vas me faire ça. Sans trop savoir d'ailleurs si la personne était capable ou pas de le faire. Tiens, toi tu vas me faire ça. Mais en tout cas, de demander. Et il disait qu'il tenait ça du père Gerbeau qui lui avait demandé, lui, le tout nouveau, le petit nouveau, de faire le compte-rendu. Donc, il se trouve à la JOC pendant environ 2 ans. Les gens de la JOC disent que il n'était pas souvent aux réunions. Il n'était pas souvent aux réunions parce que, ben évidemment, quand on est apprenti pâtissier, en fait, on travaille tôt le matin. Les pâtissiers, comme les boulangers, ils font pas les gâteaux à 4 heures de l'après-midi, ils les font plutôt à 4 heures du matin. Et alors, si vous travaillez à 4 heures du matin, ben, vous ne pouvez pas faire des réunions jusqu'à 11 heures du soir. Donc, Joseph, il était là, il n'était pas là. Mais il était suffisamment là pour qu'il y ait des choses qui remuent en lui, hein, et puis qui changent. Alors, on va prendre un texte là pour voir, et puis on arrêtera là. Avec la JOC, on lui apprend à observer ce qui se passe autour de lui. On lui apprend à noter ce qui se passe. À observer et à noter. Et à noter et à observer ce qui se passe chez les plus petits, les plus faibles, ceux qui sont les plus malheureux. Et donc, Joseph, avec ses copains de la JOC, il apprend ça, ils vont ensemble faire des enquêtes auprès des jeunes, qu'est-ce que vous pensez de telle chose, de telle chose. Et alors, c'est le premier texte, je vous le lis. C'est en luttant parmi les plus pauvres. Donc oui, se lutter. Donc la JOC lui a appris aussi cette dynamique, cette de la lutte. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure, hein, Père Joseph n'était pas un doux, c'était un violent, C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui était lutteur. Alors ensuite, il a contrôlé sa violence, bien sûr. C'est-à-dire, il ne donnait pas des coups de poing à tous les gens qu'il rencontrait. Il a contrôlé sa violence et il a fait que cette violence s'est transformée en un combat politique, un combat de société pour que les plus malheureux soient moins malheureux. Hein, et puis qu'un jour, la misère cesse. Mais donc, lutter, le mot lutter est très important. C'est en luttant parmi les plus pauvres, oui, parmi, c'est-à-dire avec les gens. Et donc, ces enquêtes de la JOC, d'aller voir les gens sur les quais de la Loire, d'aller voir les gens après les apprentissages, dans les cafés, lorsque les jeunes se réunissaient dans le café après l'usine. Bon, ben, qu'est-ce que vous pensez, etc. Pour, on en a marre, on travaille trop. C'est-à-dire, on est en 1930. Dire, c'est pas, on parle pas des 35 heures. Oui, tout ça, c'est, je veux dire, et les jeunes sont exploités et à peine payés. Oui, c'est-à-dire, c'est pas, oui, il n'y a pas, hein, il n'y a pas les droits de l'enfant, il n'y a pas. Aujourd'hui, on est dans une société où on essaie de faire attention, et bien qu'on essaie de faire attention, on sait combien de gens sont mis sur le côté, mais à l'époque, on ne fait pas attention du tout. Donc, il se trouve avec des jeunes qui sont très très malheureux et qui souffrent beaucoup. C'est en luttant parmi eux, parmi les plus pauvres, et en donnant priorité à leur regard. Voilà, ça c'est l'enseignement de la JOC. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils pensent? Enfin, qu'est-ce qu'ils pensent ces jeunes que vous rencontrez? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils voudraient? Qu'est-ce qu'ils espèrent? Donc c'est en luttant parmi les plus pauvres et en donnant priorité à leur regard qu'un jour, on a l'impression que c'est tout d'un coup, et d'ailleurs c'est tout d'un coup, je me suis réveillé d'église. L'impression que, voilà, il avait quitté la foi en Jésus-Christ, il ne croyait plus ni à Dieu ni à diable, tout ça c'était, voilà, d'ailleurs s'il y a un bon Dieu, il n'y aurait pas toute cette misère. Donc, un gamin, je veux dire, il est comme nous autres, il dit, s'il y a un bon Dieu, il n'y aurait pas cette misère, donc s'il y a la misère, c'est qu'il n'y a pas de bon Dieu. Voilà, il pense ça, mais il ne va pas réfléchir plus loin, il pense ça, comme tout le monde. Et puis voilà qu'il rencontre la JOC. Bon, il y va, finalement ça lui plaît, on lui fait l'honneur du compte-rendu, il y reste, il y va comme il peut, une fois sur deux, une fois sur trois, une fois sur quatre, ça dépend. Et puis il y a des choses, il entend des choses, il a des relations avec d'autres jeunes. Et peu à peu, ça fait son chemin à l'intérieur de lui. Et le voilà que cette lutte avec les autres, il se réveille d'église. C'est important parce que ça veut dire que c'est pas parce qu'il croyait en Jésus-Christ qu'il va vers plus pauvre que lui, mais c'est en allant vers plus pauvre que lui qu'il rencontre Jésus-Christ. Et souvent on dit, hein, ben, si tu crois en Dieu, aime ton prochain. Si tu crois en Dieu, fais attention à ton voisin. Si tu crois en Dieu, aide cette vieille dame à traverser la rue. Si tu crois en Dieu, c'est-à-dire si tu crois en Dieu, ben, sois charitable, comme on dit. Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il rencontre des jeunes pauvres comme lui et plus pauvres que lui, parce que certains n'étaient pas apprentis, n'avaient rien, étaient aujourd'hui, on dirait, des jeunes qui simplement passent leur journée et leur nuit à se droguer ou à boire. Et donc, c'est en travaillant avec ces jeunes, en les écoutant, en donnant la priorité à leur regard, qu'ils découvrent Jésus-Christ. Et bon, ça c'est très important, on en reparlera les fois suivantes, mais, et sans doute à partir du même texte, mais ça c'est très important. Je me suis réveillé d'église. Tellement d'église que je pensais qu'il fallait que je sois prêtre. Au fond, il... ce qui est intéressant, c'est qu'il ne dit pas « j'ai rencontré Jésus-Christ hein. ». Il dit « je me suis réveillé d'église ». C'est tout d'un coup faisant partie d'un peuple, le peuple de Dieu, faisant partie d'un groupe de gens adhérant à Jésus-Christ, mais vous voyez, il ne parle pas de Jésus-Christ là. Attendez, il va en parler quelques lignes plus loin. Mais pour l'instant, il dit « d'église ». Tellement d'église que je pensais qu'il fallait que je sois prêtre. Nul n'est prêtre, personne n'est prêtre, sans une sorte d'attachement viscéral à Jésus-Christ. Ah oui, là, il y a quelque chose sur lequel j'insiste, puis je vais arrêter là, mais ça, c'est capital à comprendre. pour comprendre le Père Joseph, c'est que il y a la priorité au plus pauvre qui lui donne d'être d'église, de rencontrer Jésus-Christ. Et du coup, il se dit, je vais devenir prêtre. Mais il dit, attention, prêtre, c'est pas être présent aux pauvres, c'est être attaché à Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est pas, au fond, je rencontre des gens très pauvres, je me dis, il faut que je sois prêtre pour m'occuper des pauvres. Non, c'est, je rencontre des gens très pauvres, je ressens à ce moment-là en moi l'appel à être prêtre, parce que être prêtre, c'est être attaché viscéralement à Jésus-Christ. Viscéralement, les viscères, hein. Viscéralement à Jésus-Christ. Et être attaché viscéralement à Jésus-Christ, c'est être proche des pauvres. Oui, mais c'est encore une sorte de cercle, c'est-à-dire qu'il rencontre de pauvres jeunes. Là, il est essentiellement avec des jeunes. Hein. Il rencontre des pauvres, des jeunes malheureux. Et peu à peu, il y a un travail qui se fait, il dit, je dois devenir prêtre. Mais prêtre, c'est pas s'occuper des jeunes, c'est être attaché à Jésus-Christ. Et si je suis attaché à Jésus-Christ, alors je suis évidemment avec les pauvres. Voilà. C'est ce qui va, la phrase suivante, hein. À 18 ans, en fait il dit à 18 ans, mais quand on a les dates, c'est 17 ans, mais peu importe, à 18 ans, à travers la lutte jossiste, les jossistes, j'ai recommencé à prier, à songer à libérer mes frères. Vous voyez encore, la prière, libération des frères. Ça va ensemble. C'est-à-dire, la lutte sociale, la lutte de libération du monde des très pauvres, va de pair avec l'attachement à Jésus-Christ. L'un ne va pas sans l'autre. C'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. Et les deux se nourrissent. L'attachement à Jésus-Christ nourrit sa lutte pour que la misère cesse, et la lutte pour que la misère cesse lui dit, mais donc je dois être encore plus attaché à Jésus-Christ. Il y a un moment, c'est un texte qu'on verra plus tard parce qu'on ne peut pas tout dire, mais il y a un moment où il dit, on lui pose la question, mais est-ce qu'il y a une solution à la misère? Réponse, oui, l'Eucharistie. C'est-à-dire, non pas aller à la messe, mais l'Eucharistie, c'est la réponse à la misère. Et l'Eucharistie, c'est quoi? C'est la mort et la résurrection du Christ. C'est-à-dire que par la mort et la résurrection du Christ, il n'y a plus de misère. Mais il n'y a plus de misère jusqu'au jour où voilà, il faut qu'on attende que le royaume soit venu. Mais on retravaillera ce texte parce que c'est un texte capital. Je reprends. À 18 ans, à travers la lutte jossiste, j'ai recommencé à prier, à songer à libérer mes frères. C'est alors que j'ai pensé devenir prêtre. Prier dans l'église, offrir l'Eucharistie, c'était vouloir apporter l'évangile à mes frères, à tous ceux qui avaient vécu la même vie que ma mère. Vous voyez, on se dit, ben, il va aller à la paroisse du centre-ville. Non, en fait, lui, ce qu'il pense, c'est les gens qui ont vécu comme sa mère. C'est-à-dire que c'est son apprentissage de pâtissier, la jogue, ça le fait pas quitter son milieu, ça fait, il est attaché à ce qu'il a vécu, hein, et il veut pas quitter son milieu, mais apporter l'évangile à ceux qui ont vécu la même vie que ma mère, et combattre pour eux, pour les plus pauvres, pour que jamais plus une famille ne fût semblable à la mienne, encore une fois référence à sa famille, c'était devenir prêtre de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Alors, là, il faut, pour que la phrase soit complète, mais j'ai mal recopié le texte parce que j'ai oublié ça. On lui pose la question, « Les pauvres sans l'Église », c'est un livre d'une interview. Donc, il y a des questions, puis des réponses du Père Joseph. Alors, la question de celui qui interviewe, voilà ce qu'il demande. « Depuis que je vous connais, Père Joseph, je me suis parfois demandé, si vous étiez prêtre à cause de Jésus-Christ ou par amour des plus pauvres. » Vous voyez la question? Au fond, t'es curé pourquoi? À cause de Jésus ou à cause des pauvres? T'es curé pourquoi ? Pour suivre et servir Jésus ou pour servir les pauvres ? Vous voyez la question ? L'un ou l'autre ? Réponse du Père Joseph. La question ne se pose pas. Dans ma jeunesse, il y a eu un moment où j'ai pris distance avec l'Église. Hein, je disais tout à l'heure, on peut tout balader, quoi. J'apprenais un métier, celui de pâtissier. J'entrais dans le monde. À 18 ans, à travers la lutte jociste, j'ai recommencé à prier. C'est le texte que j'ai là. Alors, la suite du texte. Alors, donc le Père Joseph dit, avoir retrouvé la foi, ce n'était pas seulement trouver le sens du combat, c'était vouer ma vie à Jésus-Christ. Vouer ma vie à Jésus-Christ. Question. Alors, Père Joseph, si vous êtes prêtre, ce n'est pas par solidarité avec les pauvres. Absolument pas. Absolument pas. Vous voyez la question, hein, Sandy ? Au fond, s'il est curé, c'est pour être avec les pauvres. Et du coup, c'est plus pour être avec Jésus-Christ. Et Père Joseph dit, mais si je suis prêtre, c'est à cause de Jésus-Christ, c'est pas à cause des pauvres. C'est à cause de Jésus-Christ. Mais je peux pas être avec Jésus-Christ sans être avec les pauvres. Mais oui, c'est pas une manière d'être avec les pauvres. Au fond, la meilleure manière d'être avec les pauvres, c'est d'être curé. Ça me foutra la pêche avec les pauvres, et puis voilà. Et personne ne me dira rien, parce que qu'un curé soit avec les pauvres, c'est normal, au fond, c'est son métier. Enfin, ça devrait être son métier. Et là, le Père Joseph dit, ah, mais c'est pas du tout par solidarité avec les pauvres. Alors, c'est par quoi ? Mais c'est parce que j'aime Jésus. Et si j'aime Jésus, je ne peux pas faire autrement qu'être avec les pauvres. Oui, c'est ce circuit-là, je vous lis la phrase. Alors, dit l'intervieweur, Père Joseph, si vous êtes prêtre, ce n'est pas par solidarité avec les pauvres. Réponse de Joseph, absolument pas. On ne peut pas éviter de se poser la question, es-tu prêtre par amour de Jésus-Christ ou bien pour un combat social ou politique ? Oui. Est-ce que c'est par amour de Jésus ou bien pour un combat politique, social ? Libérer les gens de la misère. C'est un bon combat, hein, libérer les gens de la misère. Je ne vais pas dire ce que je n'ai pas dit, mais Père Joseph se dit, attends, être curé pour Jésus-Christ ou pour un combat politique ? Y répondre au moment où je vous parle, donc en 1983, la date du livre, y répondre au moment où je vous parle, c'est dire que toute mon expérience d'enfant m'avait appris la complicité entre l'Église et les pauvres, leur communauté de destin en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Joseph comprend tout d'un coup que s'il est prêtre, c'est suivre Jésus, parce que suivre Jésus, c'est être avec les pauvres. Que l'un ne va pas sans l'autre. Si l'un va sans l'autre, ce n'est plus Jésus-Christ. C'est un autre. C'est Che Guevara, Charles de Gaulle, Napoléon, Louis XIV, peu importe qui. Un grand homme. Donc, mais si c'est Jésus-Christ, alors c'est automatique. Ça ne peut pas être autrement. Donc ça, c'est quelque chose de capital, parce que tout ce qui va naître ensuite, et qu'on va voir au fur et à mesure des fois, hein, mais tout ce qui naîtra ensuite vient de cette source-là. C'est-à-dire que ce souci des pauvres, ne croyant ni à Dieu ni à diable, le souci des pauvres, c'est trop difficile. Donc, jeunesse communiste, libération sociale, libération politique, on n'en peut plus, il y a trop d'exploitation, les patrons font ce qu'ils veulent, les gens de l'argent font ce qu'ils veulent, nous les pauvres, on doit se libérer. Et puis rencontre providentielle de la JOC, tout d'un coup un curé lui fait confiance, lui il réfléchit pas, simplement il laisse les choses se faire en lui, et comme il dit, je me réveille d'église, et tout d'un coup, surgit en lui, mais je dois être prêtre. Mais prêtre pour Jésus-Christ. Mais à aucun moment, il abandonne le combat politique, parce que être avec Jésus-Christ, c'est se trouver tout d'un coup, et normalement, du côté des plus pauvres. Ça ne peut pas être autrement. C'est comme si il se marie avec quelqu'un qui est lui-même le plus pauvre. Donc, il ne quitte pas les plus pauvres. Il est avec eux. Voilà. Et ça, c'est capital, parce qu'ensuite, le Père Joseph dira souvent que Jésus, c'est le Fils de Dieu fait homme de la misère. Et pour lui, entre Jésus et le misérable, il n'y a pas de différence. Jésus est Fils de Dieu fait homme de la misère. Et celui qui suit la personne de Jésus, celui qui essaie de le servir autant qu'il peut, nous et tous les autres, hein, eh bien, en suivant Jésus-Christ, nous suivons un homme qui a vécu la misère, Jésus pauvre parmi les pauvres, et nous ne pouvons que rejoindre les pauvres. Ensuite, chacun comme on peut, chacun selon les événements de sa vie, et on a chacun une vie différente, hein, mais il n'y a pas de différence entre suivre Jésus-Christ et être avec les pauvres. Pour le Père Joseph, c'est capital. Mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que si on retire le suivre Jésus-Christ, le être avec les pauvres, pour le Père Joseph, n'a plus de sens. Et s'il n'y a que le être avec les pauvres, ça n'a plus de sens non plus. C'est-à-dire, c'est pas seulement un combat politique, c'est un combat politique qui est en même temps un combat théologique, ça veut dire où Dieu est en question. Voilà, où Dieu est en question. Donc voilà, c'est que... J'arrête là.
Je